François Stressart et la belle équipe pour la récré de France Culture. À l'affiche, la lettre de chouchou à son chouchou et l'inventaire des rôles que vous auriez aimé jouer, Dominique Muller.
Camille Javal, Brigitte Bardot dans Le Mépris, c'est tout moi. Certes, Michel Piccoli fait un mari égocentrique et Godard ne devait pas être drôle tous les jours. Mais ça se passe à Capri, dans la villa Malaparte. Et rien que pour m'allonger toute nue sur le toit plat, avec la mer autour, j'y cours.
Et puis, quand un papou lit un autre papou, Lucas Fournier nous parle de Patrice Delbourg. Ensuite, une découverte, La Malle aux merveilles de Sartre, avec Patrice Caumont dans le rôle du chasseur d'inédit. Un fragment.
Aussi vrai que Le Mans est dans la Sarthe, le mensonge est dans Sartre. Avoir trahi les autres n'est rien. Mais s'être trahi soi-même, c'est une autre paire de manches.
Arriveront les nouveaux fabulistes, dit le conseil Jacques Jouet, pour un Minus et une porte étroite, suivi de la colère de Jean-Bernard Puy contre l'anticyclone des Açores. On ne se quitte plus jusqu'à 13h58. Un numéro des Papous à télécharger pendant un an sur franceculture.fr. C'est le podcast, c'est gratuit et vous nous emmènerez partout en balade avec vous. Merci de votre fidélité et bienvenue dans le club à ceux qui nous découvrent. La première en piste aujourd'hui, c'est Val Massy. Pour le jeu des suppositions, suppose que tu t'appelles, d'un drôle de nom en général. Et elle nous racontera une histoire. Et cette histoire se terminera par un joli calembour sur le dit nom. Vous avez envie de vous adresser à qui, Eva ?
Ah, mais moi, j'aurais besoin d'un homme. Oui. Mais comme j'ai une comédienne, par esprit de contradiction, j'aimerais demander à Jeanne de jouer un rôle d'homme.
Vous voulez bien, Jeanne ?
Ah, volontiers.
Oui. C'est un très beau rôle. Hein.
Ah bon ?
Oui. Suppose, Jeanne, que tu t'appelles Aïb.
Aïb ? C'est pas mal comme nom.
Oui. Pardonne-moi, mais tu n'es pas Crésus, tu habites la banlieue, tu n'as pas de voiture, tu ne roules pas sur l'or. On pourrait supposer que tu essaies de faire des économies, mais la sagesse, la mesure, les épargnes de bout de chandelle et les petits cochons en porcelaine avec une fente sur le dos pour y glisser la pièce ne sont pas ton fort. J'ai tort. Tu aimes flamber, vivre sur un grand pied, épater la galerie. Pas plus tard qu'hier, incorrigible, une nouvelle fois, tu sors en boîte avec des copains, des copines et des copains des copines. Et bien sûr, c'est ta tournée plus souvent qu'à ton tour et tu y laisserais ta chemise. Tu vois, Aïb, j'ai l'œil sur toi. De tout cœur, j'aimerais t'aider à résoudre ton problème. J'ai une très bonne amie psychanalyste, malheureusement, elle est comme toi. Trop généreuse, trop dépensière et donc pas très riche. Elle ne peut pas te dépanner. Par contre, je l'espère, elle te sera d'un grand secours moral. L'ami en question connaît des centaines et des centaines d'histoires drôles. Elle est millionnaire en blagues. Mais revenons à hier soir. Tu es là devant la boîte de nuit, sur le trottoir mouillé. Tu n'as plus un rond à la poche vide. Comment rentrer à la maison? Les copains t'ont laissé choir, mais elle, mon amie, elle vient vers toi, telle une bonne fée, et elle te raconte la blague suivante. Paul court après le tram. Pierre lui demande « Pourquoi tu n'y montes pas ?» Mais, répond Paul, c'est pour économiser le prix du billet, voyons. Comme t'es bête, lui dit Pierre, cours après un taxi, tu économiseras beaucoup plus. Sur le moment, Aïb, cette histoire te fait plus pleurer que rire, abandonné de tous dans l'abribus désert. Comment rentrer chez soi? Flambeur ou loser, il faut choisir. Courir après les taxis, les trams, c'est pour les petites frappes. Les pires rates d'écart, Aïb. Les pires rats des Caraïbes.
Les pires rats des Caraïbes. Ah ben oui, évidemment.
Oh là là,
c'est pas comme rater un taxi,
rater un taxi.
Mais c'est le film le plus regardé. Il y a déjà un, deux, trois des pirates des Caraïbes.
Oui, parce que les pires rats des autres Caraïbes, ça aurait pas marché.
certains, les vénards, sont partis tous les week-ends depuis les jolis ponts du mois de mai. D'autres prennent leurs vacances au mois de juin. C'est moins cher, il y a moins de monde, on se sent privilégié. Et ils écrivent, ces gens qui sont partis, et miracle, les autres qui sont restés leur répondent. Et nous, au Papou, nous collectionnons leurs lettres, bien plus délicieuses que des SMS, comme la lettre de l'escargot Patrice Minet à ses poteaux du jardin, ou bien celle du chien Sultan à ses maîtres, parti sans l'emmener. Pas mécontent d'ailleurs, Sultan, d'échapper à ses maîtres. Bon, il n'y a pas que les animaux qui racontent leur voyage. Aujourd'hui, la lettre de Dominique Muller dans la peau d'une petite dame qui est partie ou qui est restée, Dominique.
C'est difficile à dire. Ah. Je suis partie, mais en un sens, je suis restée. Ah. Ou le contraire.
Enfin. Mais ça va bien quand même.
Ah, parfaitement oui. Bien, vous allez comprendre tout de suite. Oui. En fait, c'est un mail que j'envoie là, à une autre adresse mail. Et il y a un objet toujours dans les mails, c'est ton étourdi. Et c'est écrit à Chouchou.
Ouais.
C'est mon troisième matin à Roissy. Comme convenu, je t'attendais avant-hier au comptoir d'enregistrement de la Radine Air, vol Paris-Naples de 9h48. Comme j'aurais juré que c'était convenu plus tôt, je suis tellement étourdie que j'ai compris de travers, c'est sûr, et impossible de vérifier le jour, puisque c'est toi qui as les billets et que ton portable était sur messagerie, jusqu'à ce que le mien disparaisse avec mon ordinateur, mon bagage et le sympathique vieillard qui me les a gardés pendant que j'allais aux toilettes. Tu vas encore dire que je suis trop confiante, mais sans confiance, la vie serait trop triste. Ce qui m'énerve, c'est mon étourderie. Je finis par hésiter sur la ville. Il n'y a que Radine Air dont je sois certaine, c'est notre low cost à nous. Elle n'a qu'un vol quotidien pour Naples, mais une foule d'autres pour l'Italie et je préfère t'attendre sur place, de peur de te rater.
Ah oui.
De toute façon, j'ai plus de quoi partir. Mon sac à main était dans mon bagage en prévision de l'embarquement. L'Italie, ça, pas de doute, parce que figure-toi que la semaine dernière, Giulia m'a dit que tu avais hâte de visiter l'Italie avec la femme de ta vie. Ça m'a soufflé qu'elle le sache. Soit disant qu'elle y allait aussi avec son amoureux avant-hier, pareil que moi, sauf Orly au lieu de Roissy. Bref, la ville, ce sera la surprise quand tu seras là. Je ne m'ennuie pas du tout. D'abord, j'étais occupée à essayer d'emprunter leur portable à des passants qui détalaient comme si j'allais leur piquer. La méfiance, ça me désole. Le temps file aussi palpitant qu'un film à suspense, à scruter les portes coulissantes, le cœur en vrille quand apparaît un homme qui de loin te ressemble, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Le premier jour, je rôdais autour du comptoir où défilaient les enregistrements pour Milan, Turin, Rome, Venise, Florence. Je m'y sentais déjà en Italie, parmi ces gens qui parlent comme à l'opéra. Mais le soir, j'ai eu très faim. En douce, j'ai mangé les restes de pizza abandonnés sur les tables par les voyageurs. Ils ont le feu aux fesses à Roissy. Et bu tout leur fond de bouteille. Ça devait faire un mélange bizarre. Parce que j'ai oublié comment je suis revenue dans la zone de Radine Air, où je me suis réveillée le lendemain à la même place que la veille. En boule dans mon siège, assez confortable pour dormir. C'est bien fichu ces aéroports. Je me suis nettoyé le museau aux toilettes et puis j'ai fait une chose horrible. Ne m'en veux pas, j'ai volé 2 soucoupes de pourboire dans une cafétéria pour prendre un espresso ristretto. Tu vois, je me suis mise à l'italien et m'acheter un journal. J'en ai profité pour feuilleter des guides touristiques sur nos villes à visiter et je suis revenue à mon poste 2 heures avant le départ, comme convenu. Pareil que la veille, c'était plein d'Italiens qui disaient « non capisco » quand je leur demandais de t'appeler sur leur portable. Ce qui veut dire non, si j'ai bien compris. J'ai lu dans un guide que le pickpocket fait partie du folklore napolitain. Mais de là à en voir partout, c'est navrant. Une fois les passagers embarqués et l'avion parti, je les repère par la vitre, ça aussi ça occupe. Au lieu de rester planté là, j'ai noté les horaires des autres vols pour ne pas les manquer et je me suis promenée tranquille dans Roissy. En fait, c'était comme une gigantesque journée de shopping, sauf que je n'avais rien à dépenser. Hier soir, le deuxième si je compte bien, j'ai revidé les assiettes et les fonds de bouteilles du restaurant. Je suis incapable de te dire ce que j'ai pris, sinon que je me suis réveillée ce matin avec un mal de tête carabiné dans la chapelle vide où j'ai dû passer la nuit. En fait, j'étais en retard. La dame du comptoir qui m'a reconnue m'a exprimé « Primo, que la plupart des passagers s'enregistrent chez eux sur Internet sans passer par elle. Deuxio, que l'embarquement était terminé et qu'elle me conseillait de rentrer chez moi parce qu'elle n'avait pas trace de nos noms sur son ordinateur, comme elle me l'avait déjà dit. Elle souriait, cette dinde, dis donc. Qu'est-ce que j'y peux si son ordinateur cafouille ? Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis ruée au portique de la douane pour te rattraper. Mais sans billet, pas moyen de traverser, c'était trop bête. Je te ratais d'un cheveu. Ça m'a mise en colère et en zone de rétention parce que les policiers exigeaient que je me calme et que je montre les papiers que je n'ai plus. Je ne comprends pas un traître mot de ce que racontent mes compagnons, mais j'ai copiné avec une famille de Rome, cousine de ceux qui logent en bas du bureau. Ce qui me tourmente, c'est que si tu es dans cet avion, tu dois te demander ce qui m'a pris. Par chance, un petit Rome m'a prêté son ordinateur, c'est grâce à lui que je peux t'envoyer ce mail. Enfin, dès que tu l'auras lu, peux-tu joindre la PAF de Roissy pour dissiper ce quiproquo, c'est un broglio, ça veut dire malentendu. La procédure pour sortir d'ici semble aussi compliquée que pour monter dans l'avion. C'est drôle, non ? Je sais que j'ai des défauts chouchous, mais je ne ressasse pas. Si jamais tu crois que je ne suis pas dans l'avion à cause de notre dispute idiote la veille du départ, il y a, voyons, 4 jours donc, ce n'est pas le cas. Je ne prendrai jamais la mouche pour quelques paroles qui dépassent ta pensée. La confiance, c'est l'essence. Zu, on m'arrache l'ordre à tout duit, je t'attache.
Et c'est signé.
Et c'est signé.
Enfin, elle n'a pas eu le temps de l'écrire, mais vous vous appelez comment ?
Chouchou aussi.
Ah, c'est Chouchou qui écrit Chouchou.
Oui, oui.
Et les deux chouchous sont ensemble depuis combien de temps ?
Oh là là, je crois très longtemps.
Trop longtemps.
Très, en tout cas.
Mmh. Ah oui, moi je pense que le séjour risque de se prolonger. Non. Ce que j'aime bien, c'est que Chouchou fait des œufs quand même. Hein. Elle est en colère, en zone de rétention.
Ça va te perdre d'ailleurs, très souvent.
Jacques Vallée, est-ce que vous êtes quelqu'un dans l'aéroport ou vous êtes Chouchou ?
Non, non, moi je suis de la police de l'air.
Oh là ! Il a pas l'air commode. Hein.
Ben non, donc j'écris à mon chef parce que nous avons un problème. Nous détenons depuis 2 semaines une femme étrange. Elle a d'abord tourné en rond dans l'aérogare pendant 3 jours. Nous l'avons vue aborder les gens les plus divers. Elle donnait l'impression de les connaître, tant elle arborait un air de confiance. Nous nous sommes demandé ce qu'elle pouvait bien trafiquer. Ainsi, un type d'un certain âge est parti avec sa valise. Que pouvait-elle contenir ? Une femme a emmené son ordinateur et une autre son portefeuille. Plus le temps passait, plus elle prenait une allure de folle. Aussi, quand elle s'est ruée sur une file de voyageurs pour franchir le contrôle de force, nous l'avons arrêtée. Ça fait 2 semaines que nous la détenons dans le centre de rétention et impossible d'en tirer quelque chose. On l'interroge, on s'interroge, on se demande si c'est une simulatrice, une espionne, une étrangère sans papier, une idiote ou une malade mentale. Elle dit s'appeler Chouchou et quand on lui demande ce qu'elle fait là, elle dit qu'elle attend Chouchou. Elle baragouine je ne sais quelle volapuque. Elle mélange l'italien, le français, le roumain. Nous ne savons plus que faire avec cette femme, qui doit être prise en charge et soignée par d'autres services que les nôtres. De plus en plus dérangée, elle dérange l'harmonie que nous nous efforçons de faire régner dans notre centre de rétention.
Tu parles, oui.
Elle reste maintenant prostrée et on ne peut lui tirer qu'un seul mot, chouchou. Est-ce son nom ? Est-ce une façon de se moquer du monde ? Est-ce un code secret ? Dites-nous ce que nous devons faire de cette foutue chouchou. Caporal Pif.
Ça ne s'annonce pas bien. Moi, je pense que le mieux, ce serait la cellule de soutien psychologique pour vous.
Moi, je dis que sans confiance, la vie ne vaut pas d'être vécue. Donc, ça m'est égal.
Mille baci, mille carezze, amore allora. e dei bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci tu mi hai portato alla follia, con 24.000 baci ogni secondo tutto mio.
24 000 baisers, Adriano Celentano.
Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
Et oui, Ricardo, sur France Culture, les papous sont dans la tête. Et si on rêvait un peu avec Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy, Eva Almassi, Lucas Fournier et Dominique Muller, on jouerait, mais pas dans le confort du studio de la Maison de la Radio, non, on jouerait la comédie sur la scène d'un grand théâtre, ou bien sur l'écran d'une salle de ciné, le temps d'une séance, on serait Scarlett aux côtés de Clark Gable, Annie Hall chez Woody Allen, ou Giacinta dans la trilogie de la villégiature de Goldoni. Quel bonheur de se glisser dans des rôles pareils. Un inventaire à partager, celui des rôles qu'on aimerait jouer ou avoir joué au moins une fois dans sa vie. Jean-Bernard Pouy, ça c'est votre idée d'inventaire, alors pourquoi ?
Oh, j'aurais tellement aimé Gary Cooper. oui, non, parce que c'est vrai que j'ai joué quelques fois et c'est très agréable, mais comme je suis trop jeune pour jouer le roi Lear, ouais, ou le commandeur dans Don Juan, et trop vieux pour Lorenzo Cho, il me reste, bien sûr, la possibilité et la facilité de jouer les rôles de l'Arlésienne, de Kaiser Soze, du Schmurtz, par exemple, de Boris Vian, mm-hmm, ou le roi des rôles, Godot.
Voilà.
Ah ben oui. Hein? C'est la
moi
même
aussi,
chose, Dominique.
Je tiendrai avec brio le rôle titre de l'Arlésienne. La pièce de Daudet, donc, pour la bonne raison qu'elle n'apparaît pas une seconde, il n'y a pas un mot à apprendre, voilà. Et pourtant, sa renommée est légendaire, oui, au point d'être un nom commun. C'est exactement ce qu'il me faut à moi aussi. À défaut, Godot ferait l'affaire.
Lucas Fournier, quel rôle aimeriez-vous jouer ?
Je suis un peu comme eux, mais j'ai mieux, moi. J'aurais aimé jouer le rôle du souffleur au théâtre. Pas de trac à subir, pas de texte à apprendre, pas de costume enfilé, et le sentiment divin d'être le maître de la scène.
Mais il ne faut pas être claustrophobe, quand même, hein ?
J'ai la tête hors de l'eau.
Oui, un petit peu, un petit peu. Eva Almassi, quel rôle pour vous ?
On m'avait proposé un rôle, concrètement. Je me souviens plus très bien, c'est un rôle de reine. Peut-être l'une des deux reines dans Le Roi se meurt de Ionescu. Et puis je m'apprêtais à venir en France, j'avais 22 ans, et j'ai dit non. Et alors je vous dis, ne dites jamais non. Ah. Maintenant j'aurai des archives filmées de ma jeunesse, et je n'ai rien, connais ni rien.
Pleurons, pleurons, sortons nos mouchoirs.
C'est bien triste tout ça.
Odile.
Un peu pour faire enrager Jean-Bernard qui déteste les comédies musicales, mais beaucoup parce que j'adorerais être Mary Poppins. Pour voler avec un parapluie, pour danser sur les toits et pour ranger une pièce en bazar. Ou mon bureau, par exemple, d'un claquement de doigts.
Pratique, pratique.
Comme j'articule de moins en moins...
C'est vrai.
Hein, alors ça, hein, j'aimerais jouer de grands rôles muets. Hein. Ah. Et déguisés, si possible. Et monstrueux, ça serait l'idéal. Alors, il y a le golem.
Ouais.
Très beau. Quasimodo, dans le film muet. Ou alors, ça c'est l'idéal, celui de Conrad Veidt, dans le cabinet du docteur Caligari, c'est lui qui fait la... Vous avez jamais vu le...
Non, je ne l'ai pas vu, moi. Oui.
Qui fait la créature. Et, bien sûr, à propos de créature, la créature de Frankenstein qui est pas mal.
Dominique.
Vincente Minnelli, 1953. Fred Astaire, tous en scène. La chanson « That's Entertainment ». Oui, c'est moi, la danseuse Gabrielle Gérard, dans la scène du pas de deux dans le parc. Je suis Sid Charis, gracieuse et légère. Je suis un mythe. Merci de ne pas avoir rigolé.
C'est trop joli. On en a tous rêvé, enfin toutes. Parce que je crois que Jean-Bernard Pouineau...
Ou dans Traquenard pour jouer avec Robert Taylor.
Ah,
où elle danse pas.
Ah oui.
Oui, absolument.
Où elle est assise à un moment donné sur un canapé rouge, alors qu'elle a une robe rouge.
Oui, elle est magnifique.
Il y a deux rouges différentes.
Oui. Et lui aussi, il est bien. Odile.
On m'a dit parfois que je ressemblais à Simone Signoret.
Alors
je choisis le rôle de Casque d'or, bien sûr, mais aussi celui qu'elle tient dans Les Diaboliques de Clouseau, où elle fait une magnifique garce. Et pour Madame Rosa de La Vie devant soi, j'attendrai encore quelques années.
Eva. Alors moi, bien sûr, j'aimerais jouer Ophélie, c'est mon type, mon psychotype. Oui. Et comme dit la... Enfin, elle cueille des fleurs sauvages même quand elle est morte, parce que la reine dit d'elle. Et elle est tressée en d'étranges guirlandes avec l'ortie, le bouton d'or, avec la marguerite et la longue fleur pourpre, que les hardis bergers nomment d'un nom obscène, mais que la chaste vierge appelle doigt des morts. Et ça, c'est tout moi. J'aime tellement la botanique que même, n'est-ce pas, les pissenlits par les racines et les pâquerettes de même, ben, je vais encore donner leur nom botanique.
On peut comprendre, hein, chacun. Chacun sa personnalité, moi, je dirais. Lucas.
Moi, j'aurais aimé jouer le rôle du fauteuil en osier dans lequel s'installe Sylvia Christel dans Emmanuel.
Il n'y a pas quelqu'un qui s'y installe. Ça défie dans le fauteuil de
Odile.
J'aimerais beaucoup jouer le rôle d'Agnès Villermoza, qui est tenue par Françoise d'Orléac dans L'Homme de Rio. Parce que Belmondo, d'abord, n'arrête pas de la sauver. Oui. Ensuite, parce qu'il l'emmène à Brasilia dans une voiture rose avec des étoiles vertes. Et ça, c'est chic.
Ouais. Jean-Bernard.
Moi, j'aurais aimé jouer, dans le film de Preminger, le rôle de Laura, le rôle de Jean Kierney.
Bah,
je pense que physiquement, ça doit être possible. Simplement pour que ma stupéfiante apparition, alors que tout le monde me croit disparue ou morte, saisisse durablement la vie entière de les spectateurs.
Eh oui.
On s'en souvient toujours.
Eh oui, ah, ça on s'en souviendrait, oui. Oui, Dominique.
J'aimerais le tout petit rôle de Joël, la script de La Nuit américaine de Truffaut.
Nathalie Baye.
C'est le troisième rôle de Nathalie Baye en 73. Je ne quitterai pas François Truffaut d'une semelle, je l'appellerai Fonfon. Je lui faciliterai le tournage. Il me dirait, au cinéma, il n'y a pas de temps mort. Un film avance comme un train dans la nuit, tu comprends. Sa voix douce me toucherait et avec lui je comprendrais tout.
Ouais, c'est trop tard et c'est dommage. Moi, je le regrette vraiment beaucoup pour vous, Lucas.
Moi, j'aurais aimé jouer le rôle de Stanislas Lefort. C'est le chef d'orchestre de l'Opéra de Paris dans le film La Grande Vadrouille.
Ah.
Voilà, alors ce rôle est la synthèse de tout ce dont un acteur peut rêver. La comédie musicale, cher à Odile, le drame psychologique à la Tennessee Williams, la grande aventure à la Cécile B2000, la France de Clouseau, puis la fresque sociale à la Jean Renoir. Et en plus, je ressemble énormément à Louis de Funès.
Surtout avec la perruque.
Et ben,
alors rien qu'à cause de mon complexe d'Édipe, j'aimerais avoir le rôle de Catherine tenue par Christine Scott Thomas dans Le Patient anglais, qui s'appelle comme mon papa, Laszlo Almazi. Et donc, c'est un rôle triste, tragique, telle ma propre vie, n'est-ce pas? J'ai jamais autant pleuré en regardant un film. C'est du cinéma Trois boîtes de Kleenex.
Ah, oh, mon Dieu. J'ai pas vu le film, moi.
Non, je l'ai vu 8 fois et le roman est très très beau aussi.
Faites patient, hein, pour...
Ou anglais.
Ou anglais, hein, parce que...
Prego, prego, anywhere you may go, make each day be a day full of fun. If there's a game or a girl to be won, do it with a ping, bang, bong.
A bing bang bong,
presto presto, do your very besto, don't hang back like a shy little kid. You'll be so glad that you did what you did if you do it with a bing bang bong.
A bing bang bong,
a bing bang bong, a bing bang bong.
Inventaire pour mémoire. Les rôles qu'on aimerait jouer ou avoir joué au moins une fois au cinéma ou au théâtre. Alors, si vous avez des rêves, vous aussi, vous les glissez, rubrique commentaires des papous du jour. Et nous, on poursuit avec Jean-Bernard Pouy, Eva Almassi, Dominique Muller, Odile Conseil et Lucas Fournier. Dominique, à vous de rêver.
Camille Javal, Brigitte Bardot dans Le Mépris, c'est tout moi. Certes, Michel Piccoli fait un mari égocentrique et Godard ne devait pas être drôle tous les jours, mais ça se passe à Capri, dans la villa Malaparte. et rien que pour m'allonger toute nue sur le toit plat, avec la mer autour, j'y cours.
J'aimerais être Patricia Ginsberg, dans À bout de souffle, pour vendre le Herald Tribune à la criée sur les Champs-Élysées. C'est d'un chic.
Moi, tous les rôles où il y a un dialogue célèbre, court, mais imparable. Par exemple, dans Le Bossu, touchez ma bosse, monseigneur. Ou alors le rôle du peintre Pierre Brasseur dans Lumière d'été de Jean Grémillon, où il fait un grand discours sur la peinture qui est extraordinaire. Et bien sûr, toutes les apparitions fulgurantes de Le Vigan, hein, dont la plus connue est celle dans Marcel Carné. Quand je vois un nageur, je peins un noyer.
Ah oui, oui, magnifique cette réplique.
Bon, dans les dialogues, il faut choisir. Il vaut mieux choisir les dialogues poétiques, comme ça, courts, mais qui marquent. Parce que tout le monde parle, tout le monde pense à la scène de Beuvry dans Les Tontons Flingueurs. Il y a de la pomme, c'est une boisson d'homme, ça.
Jouer ça. Non, mais Michel Simon, des répliques
Michel
de
Simon. Il n'a pas des répliques courtes, hein, lui, ça dure longtemps.
Et c'est pour un problème de mémoire, c'est ça?
Toujours, hein.
Des répliques courtes.
Dormez, petit pigeon.
Oui. Eva?
En cinéma, j'aimerais jouer n'importe quel Jacques Demy pour parler en chantant. Ah. Et aussi, alors, dans le même genre musical, My Fair Lady, où Elsa Doolittle a, selon un ambassadeur, un petit accent hongrois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Odile?
Parce que je suis définitivement assez sensible au charme de Belmondo jeune. J'aurais aimé être Marianne dans Pierrot le Fou et marcher au bord de l'eau en jetant des cailloux, en chantonnant « Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. »
C'est quand même mieux que Truffaut, c'est vrai. Hein. Bon.
Oui, chacun ses goûts. Voilà.
Surtout pour les histoires de dialogue, je continue. J'aurais aimé être William Krantz. William Krantz, le tueur de boucher. Jean-Louis Barrault dans Drôle de drame. Qui prononce cette phrase formidable. Les bouchers, ils tuent des vaches, alors moi, je tue les bouchers. Ça, déclaration à laquelle j'adhère complètement. Enfin, sauf pour mon boucher préféré.
Évidemment.
Et d'ailleurs, je rajoute que j'ai moi-même tenu dans un téléfilm un petit rôle avec un dialogue formidable. Je faisais un client de pâtisserie et qui dit à sa compagne, moi, je prendrait pas le Paris-Brest s'il a l'air d'avoir fait le voyage. C'est agréable de dire ça. C'est ma seule participation.
Oui, Dominique.
Et comment que je voudrais être Cléopâtre dans le film de Mankiewicz? Je serais capricieuse, tumultueuse, envoûtante, impérieuse, grandiose. En un mot, Cléopâtre et Lys Taylor réunis dans mon corps. Pharaonique, pas besoin d'explication.
Et vous auriez Richard Burton comme compagnon, qui lui offrait des diamants fabuleux.
Voilà, un maquillage sensationnel, des chapeaux.
Lucas Fournier, qui aimeriez-vous être au cinéma, au théâtre?
Alors j'aurais aimé, pour le dialogue, mais là en l'espèce c'est un monologue, jouer le personnage de Harry Lime, le héros du troisième homme, pour pouvoir prononcer cette phrase célèbre que JB complétera. In Italy for 30 years, under the Borgia, they had warfare, terror, murder, bloodshed. But they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love, 500 years of democracy and peace. And what did that produce?
The cuckoo.
The cuckoo clock, yeah.
J'ai jamais
compris
un mot d'anglais, moi.
Pardon,
je comprends pas l'anglais. Alors
vous ne comprenez pas l'anglais, Jean-Bernard Pouilly?
Bon, très peu.
Ah oui, donc vous avez perdu toute la saveur de ce texte.
Ouais, bien, je vois avec monde, quoi.
J'ai l'impression que Lucas ne comprend pas très bien non plus.
J'ai compris.
Un truc très court. Moi, j'aurais aimé être un des Chiche Capons. Les Chiche Capons, c'est les trois.
C'est très vieux film.
Les trois... écoliers, enfin,
les disparus de Saint-Agy.
Oui. Et il y avait un des trois Chiche Capons qui était joué par Mouloudji, très jeune, avec le squelette et tout ça.
Avec Michel Simon et Eric Van Stroheim.
Et le Vigan.
Le squelette s'appelle Martin. Il dit « Salut Martin ».
Oui.
Ah mais c'est un film sublime ça, Dominique.
Je reprendrai avec plaisir le rôle de Marina Vladi dans La princesse de Clèves de Jean Delannoy en 61. D'abord, le scénario est Cocteau, Elle est mariée à Jean Marais, on a vu pire. Mais surtout, le duc de Nemours a les traits de Jean-François Poron. J'en étais toquée, comme la princesse, en un peu moins vertueux.
Hey, Lucas ?
Moi, j'aurais aimé jouer le rôle de la statue du commandeur, de Don Juan. Parce que, bien sûr, c'est un second rôle, mais on a tous les avantages. On dîne bien, tous les soirs. Le public attend votre arrivée avec un frisson. Les hommes vous craignent, les femmes sont inquiètes, on se sent supérieur.
Et tu peux arriver, en retard à la représentation.
Moi, de Shakespeare toujours, Viola ou Olivia dans La Nuit des Rois, ou la princesse de France dans Peine d'amour perdu, pour le plaisir d'écouter les répliques des autres et me trouver au milieu du feu d'artifice de mots.
Ça doit être bien, ça.
Comme chez les papous, un peu, où j'aime énormément écouter les autres. Parfois, j'oublie ma propre
réplique. Vous avez commencé au papou en étant auditrice, d'ailleurs.
Exactement.
J'aurais aimé avoir un rôle dans Cœur de verre, de Werner Herzog. Parce que tous les acteurs avaient été hypnotisés par lui. Et donc, savaient leur rôle par hypnose, et puis savaient comment jouer par hypnose. Donc, après, le tournage était facile. Comme ça... J'aurais oublié mes propres incapacités à tenir un rôle et à le jouer. Et j'aurais assuré quand même et assumé ma participation à un film sublime.
Mais c'est vrai cette histoire d'hypnose ?
Ah oui, oui. Ah bon ? Il a hypnotisé... Tu l'as vu le film ?
Non.
Personne l'a vu alors ?
Bah, non. Bon, c'était qui jouait dedans, Klaus Kinski ?
Non, pas du tout. C'est un film très romantique sur les fabricants de cristal de Bohème. Il leur a dit, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça.
Oui, encore faut-il être réceptif à l'hypnose. Hein.
Oh, bah oui.
Dominique ?
Je me contenterai d'être un hallebardier dans n'importe quelle pièce de Shakespeare. D'abord, je parle trop mal anglais pour un grand rôle, mais ça ne m'empêcherait pas d'intervenir pour arranger les affaires des héros, comme Roméo et Juliette, ça finirait bien. Mon hallebardier changerait le cours de la pièce, je serais le Deus ex machina.
Bravo, Eva.
Moi, j'aurais bien aimé jouer dans Blade Runner de Ridley Scott, le rôle de la réplicante, ou alors dans Thelma et Louise. Hein. J'aime beaucoup les films de Ridley Scott, même dans Gladiator, j'aurais joué je ne sais quoi. Quand on aime un réalisateur, on aimerait tout faire.
On le suit partout, quoi qu'il fasse, oui. Odile ?
À 16 ans, alors que je brûlais d'amour pour un garçon de ma classe qui avait un an de moins que moi, je me sentais absolument dans la peau de Phèdre, ce consumant pour Hippolyte. En tout cas, spécialement pendant les cours de français, pendant qu'on étudiait cette œuvre.
Et le mot de la fin, Dominique ? Le rôle de la fin ?
Eh bien, moi aussi, j'aimerais être Phèdre. Parce que tout de même, les plus grandes actrices y sont frottées. Mais j'aimerais une mise en scène d'avant-garde, une relecture contemporaine du texte qui aborderait le thème de la famille recomposée. Le mariage chez Racine, ça a vieilli, on peut dire ce qu'on veut.
Zoo be zoo be zoo. Zoo be zoo be zoo. Zoo be zoo be zoo. Zoo be zoo means that I love you. Zoo be zoo be zoo. Zoo be zoo be zoo. Zoo be zoo be zoo. Zoo be zoo. Zoo be zoo means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zoo. Zooby zoo means that I love you. I can't explain this feeling that you need so appealing. So all I do is zooby zoo. Our hearts are close together. This tune is ours forever. Zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo means that I love you. Here's a simple idea for you. Heavenly music and only for two. Don't need the words, they get in the way. Here is what you say. zoubizou, zou. Zoubizou, bizou, zoubizou, zoubizou means that I love you. Zoubizou, bizou, zoubizou, zoubizou means that I love you. Zoubizou, bizou.
Sophia Loren, zou bisou bisou. Quand un papou lit un autre papou, ça se passe au papou dans la tête de France Culture. La chronique de Lucas Fournier sur le nouveau livre de Patrice Delbourg. Alors Patrice Delbourg, elle écrit beaucoup des romans, mais aussi des bons gros livres, portraits d'écrivains comme Le bateau livre, des portraits de chanteurs comme dans Les mélodies chroniques ou plus récemment ces funambules de la ritournelle. En souvenir des années où journaliste, il parlait chansons ou musicals toutes les semaines, le jeudi, avec une douceur fraternelle pour ceux qui l'enchantent. Mais quand il n'aime pas Delbourg, il cogne. Le nouveau Patrice Delbourg est paru au Cherche Midi, un roman cette fois, Villa Colibé. Et Lucas Fournier l'a lu comme certains d'entre nous. Alors Lucas, raconte.
Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait... La salle d'attente.
Ah bon ?
Oui, c'est par cette phrase de Jules Renard que s'ouvre la porte de la Villa Colibé. Patrice Delbourg publie Villa Colibé. Patrick Modiano a écrit Villa Triste. Tous deux aiment à emprunter les rues de Paris, les emprunter, mais en les rendant toujours, à leur façon mélancolique et sensible. Tous deux ont publié une trentaine d'ouvrages qui ne sont chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Tous deux ont du style. Tous deux enchantent avec leur petite musique, comme disent les critiques en panne d'inspiration. Celle de Delbourg grince parfois, mais c'est d'un Stradivarius de l'écriture. Chaque phrase de Delbourg a son humanité sonore. Chaque phrase de son humanité sonore. Le journal de Jules Renard, dont je parlais tout à l'heure, débute par celle-ci de phrase. La phrase lourde est comme chargée de fluide électrique de Patrice Delbourg. Oui, enfin, non, je sais, Renard parle de Baudelaire, pas de Delbourg, mais on reste quand même entre poètes. Hein. Écoutez ça. La vie vire à l'âpre, le vent s'époumonne dans la courette, une rafale meurt dans un dernier sanglot contre le vieux cèdre de l'Atlas, le sombre quincia, 100 fois gelé, joue un dernier requiem d'ombre chinoise. Ah oui, la phrase de Delbourg est chargée, chargée d'âme et chargée de sens, de double sens. Un huissemence rehaussé par San Antonio. C'est clair, non? Bon, enfin, si vous comprenez pas, vous lisez et vous verrez bien. Tenez celle-ci encore. J'aime à souvent me rendre au cirque pour étancher mon besoin de consolation. Un cirque passe, Modiano n'est pas loin. Oui, ces quatre fantastiques, Renard, Baudelaire, Modiano, Delbourg, sont de la même famille, celle des splineux, des sensibles, des splendides. Ils nous touchent peut-être parce que des enfances douloureuses les ont fait différents et profondément écrivains. Alors rassurez-vous, je ne vais pas m'aventurer davantage sur le terrain des grands hommes de la littérature. Comme l'écrit Delbourg, on est Minus, on meurt pygmée. Donc je suis dans l'entre-deux, là. Non, je vais vous raconter ce livre. Alors sachant mal écrire, je vous le fais façon film. Donc, le héros du roman, Auguste Bléchard, une sorte de Michel Simon ou de Rému, se tient face à son notaire. Il vient d'hériter une maison ou d'une maison. Les deux se disent, j'ai vérifié dans le Littré, car Delbourg est un gardien de la langue, de la syntaxe, un entomologiste des mots rares et du vocabulaire. Il hérite donc une maison bien trop grande pour lui, une villa enchâssée dans la gangue d'une ville champignon. Le notaire, lui, pourrait être le Francis Blanche des tontons flingueurs, odieux et rétorqueur. Mais qu'importe, notre héros prend la maison paternelle en l'état, c'est-à-dire de Guingois, et notre Michel Simon, n'étant pas bricoleur, embauche une petite armée de mercenaires, 7 sortis, allez savoir d'où, estoniens, kirghizes, kosovars. Alors imaginez, Carette, Le Vigan, Aldo Macione, Pierre Doris, Jean Richard, Robert Derry dans les rôles. Tout ce petit monde cohabite comme il peut dans un vaste chantier. Je suis sûr que cela vous rappelle de douloureux moments. Comme on dit à la Malou, quand on a du bien, on a du mal. Hein. Et Bléchard, le propriétaire... Le héros, le moine copiste, féru, très féru, ignore truelle et calfeutrage. Ce qu'il aime, lui, c'est Calais et Calaferte. On est entre hommes. Oh, le face-à-face entre le littérateur et les travailleurs de force. Lui, une sorte de baron perché en haut des échafaudages, tandis qu'en bas, on discute entre gars du bâtiment. On cause technique. Herminette, tampon noir, bédane. Et puis surgit une femme.
Ah.
Oui. La Vestale de la Vistule. Elle doit être polonaise. Une sorte de fée du logis, patiente et efficace. Marina Vladi et Marie Dubois en même temps. Bien sûr, les Minus, les Pygmées, les Lilliputiens tombent sous le charme de Lilith. C'est son nom. Elle est Blanche-Neige, au sourire pacifique en forme de conférence de Yalta. Elle est Poussette, elle prend la main, la villa se transforme, on en fera la maison des écrivains, façon la belle équipe de Julien Duvivier. Voilà, je ne vous dis pas la fin, dans la belle équipe, il y en avait deux, de fin, l'une tragique et l'autre heureuse. Et devinez celle que Delbourg a choisie.
Ah ouais.
La villa Quolibet, c'est aussi une déambulation littéraire. L'art de Delbourg est de faire danser des silhouettes ou des noms un peu oubliés. Tristan Corbière, Jeanne Sourza, Mylène Farmer, Pierre Macorlan, Garincha, Dario Moreno, Hector Malo, Zappi Max, Charles Rigoulot. Vous connaissez ?
Oui. Non.
Ah, ah, bien sûr.
Un buteur.
Oui, puis l'homme le plus fort du monde.
L'homme
bravo.
Le plus fort du monde.
Vous voyez. Bruno Cocatrix. Alors si vous avez, vous aussi, du mal à rentrer dans le 21e siècle, lisez Delbourg. Lui, ce fils unique et solitaire, vous apportera sa fraternelle humanité.
Villa Quolibet est publiée au Cherche Midi.
Que j'ai pour toi, est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat, c'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie, pour toujours. Quelle obsession, que ma passion. Je te dis non, tout bas, en moins de bruit de tes pas. Mon cœur bat, mon cœur bat. J'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi.
C'est Dario Moreno, et oui, tout l'amour que j'ai pour toi. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre, une chasse à l'inédit avec Patrice Caumont, Les Nouveaux Fabulistes, Odile Conseil Jacques Jouet et le pamphlet de Jean-Bernard Pouy contre l'anticyclone des Açores avec Jacques Bertrand et Ricardo Mosner. Alors c'est J-4 pour les futurs bacheliers du bac général qui se lanceront dans l'examen mercredi avec l'épreuve de philosophie. Une pensée pour vous qui bûchez et pour vos parents qui stressent encore plus que vous. Si vous faisiez une pause avec nous en écoutant Patrice Caumont, il a enseigné la philo, Patrice, un temps. Et je sais, je devine qu'il pouvait enseigner tout en faisant sourire. Et il est passionné par Jean-Paul Sartre et son œuvre, Patrice Caumont, ce qui n'empêche pas la critique. Aujourd'hui, il a choisi de jouer avec le philosophe en imaginant qu'il découvrait un plein carton d'inédits. Patrice, comment faites-nous découvrir ces trésors ? Est-ce qu'il y avait un mot pour les accompagner ?
Il y avait marqué sur le carton, de la main de Sartre, parce que je connais son écriture maintenant, à détruire.
Ah oui, c'est il n'était pas content de ça alors. Ouais.
À détruire. Donc tout ce que... Et je regrette que les mots dans l'édition complète avec les récits intimes de la Pléiade soient sortis, parce que alors là...
Racontez-nous un petit peu tout ça.
Alors, il y a une carte de l'école Malebranche.
Oui.
Le directeur. Cher monsieur Schweitzer.
Oula. Ah bon ?
Là, oui. C'était le grand-père de Sartre qui l'a élevé, oui. Puisque son père est mort quand il était jeune. Enfin, je...
C'est pas Albert Schweitzer.
Non, c'est pas le même. Mais ils sont de la famille.
Ouais.
Cher monsieur Schweitzer, votre petit-fils nous donne quelques soucis. Je vous rassure, Jean-Paul reste un élève brillant et devrait une fois de plus cette année rafler les premiers prix. Mais ce qui contrarie son maître, c'est qu'il refuse toujours de se laver les mains après la récréation. Vous qui êtes la figure du père qu'il a perdu, vous aurez sans doute assez d'autorité et de savon pour que votre petit génie devienne un Ponce Pilate. Tenez-la, il est midi, monsieur Schweitzer, et votre Jean-Paul va encore aller à la cantine les mains sales, votre Albert Sarrazin.
Ah oui, c'est embêtant. Déjà tout petit, il a quoi? Il a 10 ans, quoi.
Ah oui, il a 9-10 ans. Ouais. Ouais. Alors, dans ce carton, il y avait aussi des livres pour enfants.
Oui.
Des albums illustrés, aux pages gribouillées, dont Les Mouches à Miel, La Belle et les 8 Clochards.
Ah bon? Ah oui.
Le Bon Petit Diable et la Bête à Bon Dieu, ou encore Le Traître et le Fainéant. Et notons que ce sont tous des albums du Père Castor.
Oui.
Alors, après, il y a une série de documents qui éclairent pas mal la nausée et la période havraise.
Oui.
Finalement, la période fondatrice de Sartre.
Oui, oui.
Alors, il y a une ordonnance à l'entête du docteur Simon Mabuse, qui est Colbert au Havre, où l'on déchiffre « prendre notamine 5 fois par jour » à renouveler tous les mois, laisser fondre sur la langue un sucre imbibé d'alcool de menthe, si l'état nauséeux persiste, boire le jus d'un demi-citron tous les matins au réveil. L'ordonnance est entièrement couverte de tampons de la pharmacie Homé.
Homé, ah oui.
Nous avons aussi...
C'est une pharmacie homéopathique.
Homéopathique et bovarienne. Un prospectus étonnant, de couleur rose violente, intitulé « Pigalle au Havre ». Illustré d'une femme avec un bandeau de pirate sur l'œil, au corsage plus qu'échancré sur le sein. On y lit « Découvrez le cabaret spectacle La Boucanière, ses belles flibustières sans bustier et ses petites corsaires sans corset. Dans La Pirate Respectueuse, nouvelle revue avec 3 effeuillages. Entrée 2 francs, première boisson comprise, réduction pour les veufs et les militaires. » Au verso, on peut lire ces mots griffonnés. L'exhibitionnisme ne manque pas d'humanisme.
Ah oui, mais alors il a quel âge, là, le petit Jean-Paul?
Ah là, il a 30 ans, là. Non, mais il a 28 ans.
Ah oui, moi
il est
j'aurais vu 15 ans, quoi.
Ah, oui, moi aussi. Oui, ça avait le côté boutonneux, quand même.
Non, il est prof au Havre. Il a 28 ans.
Donc
là.
Il s'est vraiment inspiré de sa vie, quand même. Ah bah, et des petites choses qu'il voyait là-bas.
Ce n'est que de l'auto... friction avec lui-même, si je puis dire, en parlant d'une masturbation intellectuelle.
Oui, on peut dire ça.
On peut s'exprimer, j'aurais pas dû. Alors, après, nous avons une carte postale en sépia de la Vénus du Titien, timbrée et adressée à Mademoiselle Garbo-Greta, mais avec un point d'interrogation à l'emplacement de l'adresse. Donc elle n'a jamais partie. Cher Greta, je ne suis que l'un de vos fervents admirateurs, mais puisque nous sommes nés la même année, je me permets de vous joindre le manuscrit d'un petit ouvrage sur l'influence de Swedenborg chez Balzac, surtout celle de son principe « L'amour des âmes seul compte, l'amour des corps n'est rien ». Je prends l'audace, cependant, de vous proposer de sauter le mur entre le diable et le bon Dieu, et si vous aimez la choucroute, nous pourrions peut-être dîner un soir au Balzar et je vous dévorerai d'un œil et plus si affinité. Vous ne seriez pas la première reine de Suède à réchauffer un philosophe français.
Il a bien fait de ne pas l'envoyer, quand même. Je pense que ça ne lui aurait pas plu.
Ça aurait été magnifique.
Ah, vous croyez?
Ah, moi, je suis sûre qu'elle serait...
Vous voyez le duo?
Ah oui, oui, oui.
Ah, oui.
Alors, une autre carte postale à Marlène Dietrich.
Ah oui, donc il les aimait toutes.
En deuxième choix.
Représentant, on ne sait pas, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Représentant un ange de Pontormeau, mais un ange dans les bleus.
Ouais.
Commençant ainsi... Du bist schön und ich bin sehr moche.
Ah oui.
Et puis une douzaine d'autres, toutes adressées à des actrices, dont Paula Negri et Louise Brooks, mais non rédigées.
Et toutes commençant par « Tu es belle et je suis moche ».
Oui, mais dans différentes langues. You are beautiful and I am ugly.
Ugly, voilà. Oui, oui, évidemment.
Ouais. I'm
a
frog.
Ça prouve qu'il n'avait pas...
Comme il était français,
il, avait pas confiance,
il a beaucoup joué sur le mot frog et crapaud, comme tout le monde le traitait.
Ouais.
Il a beaucoup joué avec ça. Enfin, c'est jamais parti. Non. Après, un paquet d'additions de la brasserie Balzar. Toutes libellées à l'identique, une choucroute, 3 chopes, 1 café, 1 kirchevieux. Au dos de l'une, cette note manuscrite à propos de l'ensoi et du poursoi. Si je regarde la cravate de l'homme qui joue, pour moi être le garçon de café, rôle costumé, je me dois de penser, ce n'est pas parce qu'elle est en soie qu'elle est pure soie. Les phrases suivantes sont raturées. Une autre centaine d'additions, mais alors là, de la brasserie Lip, liée par un gros élastique. Là encore, l'ordonnance est immuable. Une choucroute, 6 demi.
Oula, ça fait beaucoup.
Au dos de l'une de ces notes, et rédigée à la hâte, la bière nous donne une forte envie. Une envie plus que pressante. Une envie oppressante de penser. Plus qu'une envie ou qu'un besoin, c'est un inexorable fatum auquel on ne peut échapper, car depuis le début, on a choisi librement de les boire, une à une, toutes ces chopes. Donc on voit que Sartre était finalement très sartrien, même dans son, dans son quotidien.
En même temps, il y a une légère logique.
En même temps, c'est assez logique.
Oui.
Et puis alors là, pour finir, ce sont des pages arrachées dans des gros agendas un jour à la page. Ouais. Alors, la seule chose que je peux lire en haut, c'est parce qu'on ne voit plus le jour, mais on voit les années.
Ouais.
Donc, c'est des fragments et tout ça est bien marqué à détruire. Hein. 1939. Écrire comme Céline, penser comme Heidegger, rêver comme Desnos, aimer comme Drieu, courir comme Camus. Donc, sacré programme. 1942. Aussi vrai que Le Mans est dans la Sarthe, le mensonge est dans Sartre. Avoir trahi les autres n'est rien. On s'y habitue tôt ou tard. Mais s'être trahi soi-même, c'est une autre paire de manches. 1945. J'eusse aimé avoir le génie poétique et le courage politique de Robert Desnos. 1951. Plus drôle. L'homme révolté me révolte. C'est vraiment le bâillement de l'huître à l'appel du citron. Tous les Alberts ne sont pas Einstein. 1967. Intéressant, ça. Songer à effacer, gommer ou détruire dans mes volumes de Kafka tous les passages soulignés, entourés, commentés avec des points d'exclamation qui me trahiraient en dénonçant comme autant de preuves tous mes emprunts véritables. Laissons les chiens chercher du côté de Husserl et Heidegger. Le bâtard baigne dans l'obscur. Je suis un oedipien de Kafka. Ces lumières m'ont aveuglé. En rouge dans la marche, surtout arracher cette page de mon cahier.
Ne pas laisser de traces, oui.
78, Jean-Paul Ier mort, on nomme Jean-Paul II, décidément un prénom de pape. Janvier 80, je n'aimais que la littérature. J'ai fait philo, encouragé par la laideur de Socrate. J'aurais voulu être poète, mais je n'avais pas la gueule de l'emploi. Je voulais écrire, mais finalement, avant les mots, je n'ai fait que rédiger.
Oh, c'est très, Dieu, très
quelle tristesse. Quelle tristesse. Heureusement que ça n'a pas été déchiré, parce que c'est vraiment... Oui. Ça éclaire, ça le rend beau, même.
Et sympathique. Oui, moi je suis ravie, Patrice Caumont, que ce soit vous qui soyez en possession de ce trésor, parce que je sais à quel point Sartre a compté dans vos études de philosophie.
Oui.
Donc, en fait, ce trésor, vous allez le garder pour vous. Mais merci de le diffuser auprès de nos auditeurs des Papous dans la tête. Merci beaucoup. De toute façon, ce qui est important maintenant, c'est de savoir s'il y a eu des réactions à ces petites traces de vie de Jean-Paul Sartre, Dominique Muller.
En l'occurrence, c'est plutôt à ces traces de mort, parce que je suis dame pipi au Balzar, et donc je l'ai vu très 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 souvent, n'est-ce pas?
Parce qu'au Balzar, il y a surtout des serveurs, mais la dame pipi, elle est en bas,
bah oui, vous savez, personne ne la voit. Mais elle compte quand même, mais elle compte plus qu'on ne croit. Dans cet univers masculin, je dirais même viril, cette unique jeune femme est assez importante.
Voilà.
Et j'écris à mon propre fiancé, quoi, parce que pour lui relater cette histoire.
Ouais.
Mon bébert, c'est marrant les funérailles parfois. Je reviens de celle de Popol et figure-toi qu'il y avait un monde fou. Moi, j'y suis allée parce que le patron m'a donné ma demi-journée. Pauline qui m'a dit, c'était un bon client. Si jamais il nous voit de là où il est, eh bien, qui n'y croit pas, ce serait bien que le Balzar lui rende un dernier hommage. Moi, j'ai le service et toi, il t'aimait bien. Donc, je m'habille comme ça lui plaisait, cours de partout. Oh, la honte, bébert. Il y avait que des femmes convenables, pas très jolies, pas très jeunes. Le genre écrivain, tu vois, avec des mines attristées. Je me suis dit, c'est bizarre, il les appréciait plutôt dans mon style d'un pipi pas farouche. Mais bon, c'est toujours comme ça aux enterrements. Des inconnus s'emparent du mort, et comme s'ils étaient à eux.
Ouais.
Et voilà comment commencent les discours. Une flopette aurait vu ça, et des sérieux, du lourd. C'est là que je me suis rendu compte que Popol n'était pas qu'un dragueur de quartier. Il était philosophe, dis donc. Écrivain, ça je le savais, mais je pensais qu'il n'avait aucun succès avec ses petits souvenirs d'enfance, ses histoires de mains sales et de putes. Alors que, sans blague, ils avaient tous l'air de dire qu'il serait inoubliable. On croit connaître le client, et voilà qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas ce qu'il était. Pour moi, c'était Popol, amateur de bière, de femmes, c'est rien de le dire, et de discutaillerie de bistrot à n'en plus finir. Eh ben, pour les gens, c'est un type important, genre penseur de Rodin, en plus moche et avec des lunettes. À qui se fier ? En fait, je t'écris pour te demander conseil. Il avait oublié des papiers là en bas. Ça m'a l'air de bout de pièces de théâtre, enfin des trucs. Il y a aussi l'agenda complet de l'année dernière. Je les ai mis de côté pour les lui rendre quand il redescendrait. Mais maintenant qu'il est à de patresse et plutôt là-haut, j'en fais quoi ? Je les donne au patron ? Je les jette ? Ou bien tu les veux ? Pour mettre sur tes étagères, ça décorera ? Dis-moi ce qui est le mieux, ta Pauline. Un peu triste. C'est un enterrement tout de même. Mais soulagée qu'il arrête de me tripoter.
Ah oui, quand même, oui. Et peut-être Bébert va être un peu jaloux, il va se rendre compte que dans votre vie de dame pipi, il y a quand même beaucoup de rencontres.
Le sait, c'est un dur métier. Alors
coquine,
là, je pourrais
monde,
vous en parler longtemps.
De ce métier.
D'autant plus que ça fait très longtemps que je suis dame pipi au Balzac.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. Pleine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris. Adieu mon pays. De musique et de poésie. Les marchands mal appris. Qui ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie, en librairie. Si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, Sagreco.
Rive gauche, place aux nouveaux fabulistes, Jacques Jouet, Odile Conseil, et à leur fable avec moralité. Jacques Jouet, je vous ai offert, quel cadeau, deux personnages. Alors, il y avait un être humain, contrairement à la règle de ce jeu des nouveaux fabulistes, il y avait le Minus.
Le Minus, oui.
Ouais.
C'est un petit être humain.
Exactement. Le Minus et la porte étroite, ça faisait très André Gide. Vous l'avez reçu comme ça,
ah,
non ?
Ah oui.
Bon, alors vous savez quoi ? Avant d'entendre votre fable qui a été travaillée longuement à la maison, eh bien, on va découvrir une petite improvisation par Odile Conseil. Elle a eu 20 minutes, comme tout le monde à ce jeu, pour tricoter une fable.
Bon, on va juger, on va savoir si ça vaut la peine de travailler ou pas.
Oui, exactement. Donc, quelques vers, une moralité, naturellement, parce que sans moralité, il n'y a pas de fable.
Évidemment.
Et vous aviez le droit, tout comme Jacques Jouet d'ailleurs, de rajouter un troisième personnage.
Mais je ne me suis pas saisie de ce droit.
C'est bien.
Encore plus fort.
Oui, oui. Donc on en reste à le minus
et la porte étroite. Ouais. Prenez par exemple un minus. Plutôt normal, quoique un peu minus. Pas de voiture, donc pas de bonus, pas non plus de malus. Il prend un jour l'autobus pour aller manger chez Luce. Il y a de la salade russe et de la vodka, tant et plus. Tout est très beau chez Luce. Au mur, il y a des balthus, des photos d'Yann Arthus et des trucs trouvés aux puces. La parenthèse, je vous la fais courte, le repas est enchanteur. Minus et Luce ne sucent pas que de la glace, ils s'arsouillent à la vodka. Et voilà ce qui se passe au moment de partir. Mais la porte est étroite, et encore plus étroite, à qui comme Minus ignore la ligne droite, à cause d'un excès d'alcool de patate. Minus, quoique Minus la rate une fois, et encore la rerate. Il suit une ligne droite, et puis soudain déboîte, et s'amoche une patte. C'est que, à notre Minus, il faudrait que je puisse, c'est pas que je voulusse, rater mon omnibus. Bon, à la fin de l'histoire, Minus reste chez Luce et ils fabriquent ensemble plein de petits gugus. Moralité. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les ébats.
La moralité est parfaite. Évidemment, il y avait cette rime en us qui était extrêmement porteuse dans tout le début.
Assurément.
Et finalement, la porte étroite ne joue qu'un rôle très secondaire dans l'histoire d'Odile. Mais
sans porte étroite, Minus ne serait pas resté chez Luce.
C'est vrai, il n'y aurait pas eu les gugus.
Voilà.
Jacques Jouet, est-ce que vous avez davantage équilibré les deux rôles ou pas ?
Non, la porte étroite est aussi un peu tardive, mais...
Oui. Il y a un personnage en plus ?
Ah oui, il y a un frigo.
Qui se situe entre les deux ?
Le Minus, le frigo et la porte étroite.
Ah.
Tandis qu'il y avait chômage dans la demeure, un Minus audacieux obtint de Pôle emploi un CDD de choix. Il s'agissait pour lui de devenir livreur, de machine à laver ou réfrigérateur. Il était minuscule et pourtant courageux. Et dit, ce ne sera qu'un jeu d'enfant de voiturer au sein d'une cuisine ce frigo familial couché dans ma berline. Il le prit sur son dos et bien que le frigo pesât un âne mort et scia ses vertèbres, il le hissa fissa chez un homme célèbre. Oui, vous avez compris, c'était chez André Gide, qui voulait mettre au frais son huile d'arachide. Hélas, trois fois hélas, 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 le frigo n'entrait pas, la porte était coriace, et beaucoup trop étroite pour l'envergure de la boîte à fabriquer du froid par l'électricité. Le client impatient était fort énervé, et traitant de Minus le Minus avéré, descendit à la cave, voulant jouer les braves. Il remonta muni d'une scie tronçonneuse et trancha le chambranle en disant « Je mens... » Enfin là, il a dit une grossièreté dans la fin. N'est-ce pas que le nœud gordien n'est pas une histoire pour les chiens ? Or, chose difficile à croire et à entendre, le Minus en question se nommait Alexandre. Le frigo entra donc, mieux que dans un moulin, tout comme au Panthéon fit un jour Jean Moulin. Moralité, les légendes n'ont pas une ride pour les chauffeurs-livreurs d'André Gide.
C'est parfait, c'est magnifique.
Il est descendu à la cave du Vatican.
Oui.
Bien sûr. Mais bien sûr.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, une colère, mais une colère froide, car il s'agit de la colère de Jean-Bernard Pouy, qui n'est pas homme, à pousser des cris. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu sortir de ses gonds, et je le connais depuis très longtemps. Seulement là, il est particulièrement irrité, il y a une chose qui l'insupporte, et comme c'est un homme qui a l'écriture facile, Jean-Bernard, eh bien il s'exprime par le biais d'un pamphlet. Allez-y, Jean-Bernard Pouy, lâchez-vous.
Ah bah, l'anticyclone des Açores.
Ah bon ?
Il commence à nous déprimer, l'anticyclone des Açores. Il y en a que pour lui, tous les matins, des milliers de pauvres partant au turbin ne lisent au comptoir que la dernière page du Parisien pour constater ou apprendre où il en est, l'anticyclone des Açores.
Ouais, c'est vrai.
C'est un pervers, l'anticyclone des Açores. Il arrive tout fier. Il ne fait, lâcheté en bandoulière, que nous caresser les frontières, et il repart, boudeur, au nord ou au sud, nous tournant le dos et nous laissant nous coltiner les dépressions diverses. Quand grand seigneur il daigne nous recouvrir, c'est toujours à contre-temps. C'est-à-dire l'hiver, quand on n'a pas vraiment besoin de lui, Il s'installe, peinard, nous amène un peu de ciel bleu, mais augmente les grands froids glaciaires qui nous paralysent les eaux, ratatinent nos géraniums et détruisent le palmier ou le mimosa que vous avez réussi à faire pousser sur vos balcons. Et l'été, quand, nus comme des vers, nous attendons impatiemment de faire la sieste à même la plage, en comptant sur la présence réconfortante, immuable comme une enclume céleste, de ce fichu anticyclone des Açores, mais non, il s'en va, il disparaît, laissant de gros nuages cacher le soleil, le vent balayer le sable, le crachin vider les campings, ou forçant à enfiler obligatoirement une petite laine. Installé, l'anticyclone des Açores est d'un ennui profond. Tous les jours sont similaires, le ciel ne change pas, d'un bleu sans âme, sans mystère, ni aspérité. La température ne change pas, le chaud pénible, le froid douloureux, les nuits constellées d'étoiles moqueuses, le thermomètre s'endort et le baromètre roupille. Alors que les dépressions sont changeantes, mouvantes, sans cesse renouvelées, pleines de surprises, le baromètre joue au yo-yo, les jours ne se suivent pas, ne se ressemblent jamais, on ne sait pas comment se vêtir, c'est toujours une gageure, il y a un pari constant, à savoir le temps qu'il fait. Les dépressions sont rapides, cisaillantes, aiment voyager, découvrir du pays. Elles aiment l'errance et refusent de s'installer durablement. Alors que l'anticyclone des Açores est décevant de lenteur, c'est comme un gros pépère, un édredon mou du genou, un flanc tremblotant. Et quand il est là, nous enrobant, c'est galère pour le faire bouger. Les dépressions le tentent, comme des chiens hargneux titillant un hippopotame. Ils parviennent parfois, mais c'est difficile. Alors ça les rend nerveuses, ce qui, pour nous, est un réconfort. Et aussi, en ces temps où tout se ressemble, l'anticyclone des Açores est celui qui, théoriquement, nous empêche, nous, Européens, de connaître cette merveille de la nature qu'est un vrai cyclone. Et nous condamne à une météo petit bras, petite bourgeoise, puis il l'anime en diable. À cause de lui, nous ne voyons jamais un palmier couché par l'ouragan, un toit en tôle volant dans les airs, des vagues de 150 mètres de haut constellées de surfeurs pris au piège. Alors, qu'il reste aux Açores, qu'il en profite. Et s'il y a encore des volontaires pour aller le voir de près, qu'ils y aillent aussi aux Açores. C'est très beau, les Açores. Il y a des volcans magnifiques.
C'est envoyé. Moi, j'aurais pas pensé à être contre lui, mais c'est vrai, c'est assez justifié quand
oui.
même, non ?
Oui, quand on y pense.
Quand on y pense.
Quand on y réfléchit.
Vous y aviez pensé, vous, Serge ?
Non, moi, je suis un peu... Oui, enfin, je suis pas complètement d'accord, parce que je trouve que l'anticyclone sort assez peu de chez lui, finalement. Pardon.
Alors, Jacques Bertrand... Ça vous intéresse, l'anticyclone des Açores? Parce que vous êtes un type plutôt bien tempéré, donc l'anticyclone est parfois un peu
je suis surtout quelqu'un d'absolument passionné, donc, donc je suis pour l'anticyclone des Açores.
Ah bon?
En général, je suis plutôt contre les choses.
Oui.
Il est donc tout à fait logique que je sois pour les anti-choses. Quoique.
Quoique.
Certaines choses sont anti-autre chose.
Oui.
Mais bon, on ne peut pas être anti-tout. Par contre, je suis anti-Açores.
Ah bon ?
Je ne pourrais pas dire pour quelle raison exactement. Il me semble que je préférerais les Canaries, si je devais choisir.
Anticyclone des Canaries.
Ou les Bermudes.
Ah oui.
Les Maldives, non, ça sonne comme maladive. Ouais. J'aurais trop peur de m'enrhumer. Et puis par ailleurs, comme le cyclone est anti-tout, je suis également pour le cyclone. D'abord, il faut de tout pour faire un monde. Et quoi de plus angoissant que le calme plat et la mer d'huile ? D'ailleurs, ne dit-on pas que le calme précède la tempête ?
Oui.
Ce qu'il y a de plus intéressant dans le cyclone, c'est son œil. Les cyclones ont de beaux yeux. Dans l'œil du cyclone, il ne se passe absolument rien. La tranquillité totale, alors qu'autour, c'est le grand chambardement. C'est un peu comme si on restait sous sa couette alors qu'il ferait moins 10 dans la chambre. C'est une image. Je suppose que pour l'anticyclone, c'est le contraire. L'œil est en folie et il ne se passe absolument rien autour. Mais d'une manière ou d'une autre, on est toujours sous pression. Sauf naturellement en cas de dépression.
Il est clair, cet homme, moi, je trouve.
Limpide. Hein, non, ça limpide. Fait du bien de... Une parole claire, pure, c'est comme un anticyclone, c'est... Oui, vous voyez, on sent apaisé,
on
il fait bien.
Régénéré.
Oui, on a tous tombé la veste.
Et... Ouais, absolument.
Écoute, oui, absolument.
Ricardo Mosner, vous avez un point de vue pour, contre, vous êtes plutôt dans le genre de Jean-Bernard Pouy ou dans celui de Jacques Bertrand?
Le deux. Je suis le cyclone de sa sœur.
Ah, bah oui, alors.
Alors, je vais défendre mon camarade, l'anticyclone. Parce qu'il faut se serrer les coudes. Bon vent, mauvaise pluie, il faut faire corps, du corporatisme thermique. Sinon, un jour, on aura le même climat partout. Alors, je n'ai aucune envie d'aller jusque là-bas, souffler des french fries, des fromages qui puent, pas même de souffler la mousse d'une bière. On est très potes avec l'anticyclone. On communique en se sifflant. Et on a un contrat de confiance, un peu comme deux camarades qui font des tours des bras dans lesquels personne ne gagne. Comme ça, tout est dans l'ordre. D'un côté, le calme plat, avec quelques précipitations. Et de l'autre, la tempête, avec arrachage de tout ce qui se met à ma portée. D'ailleurs, une fois, le 15 septembre 1927, quand mon poteau, l'anticyclone, était flappy, je me suis un peu avancé et on m'a fait une très mauvaise presse. Ici, je suis respecté, on me craint avec admiration. On me rend hommage, je bats des records. Là-bas, avec cet état dépressif permanent, on me décrit comme quelque chose d'invraisemblable, du jamais vu, un peu si on ne me demande pas ma carte de séjour. Et puis, on veut...
Et puis,
si on veut admirer ma force dévastatrice, déplacez-vous, prenez un charter. Vous aurez des émotions à gogo. Si je vous chope, ça vous fera une foire de 30 gratuite. Si vous voulez de l'aventure, ne restez pas à la maison et foutez-lui la paix à mon alter ego, mon complémentaire, ma mi-médaille, mon anticyclone. Salut, ma vieille soufflerie, et que l'atmosphère te protège. Je vous attends, bande de trouillards. Venez vous secouer les squelettes avec les cycloclo et ses claudettes.
Ah oui, ça déménage. Hein.
On a deux tempéraments, complètement différents.
Un peu plus tempétueux.
C'est... Oui, d'accord avec moi, hein, lui. Hein. Il préfère la dépression. Hein. L'anticyclone, le calme.
Il n'aime pas le calme.
Les hautes pressions, c'est comme la bière. Il y a les hautes fermentations et les basses fermentations. Les meilleures bières sont de basse fermentation.
Ah bon ?
Et comme dans la météorologie, c'est les basses pressions qui sont intéressantes et pas les hautes.
Très bien. On va vous laisser entre connaisseurs. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Claude Niort. Un numéro des papous que vous pouvez télécharger sur franceculture.fr pendant un an. Réécouter 1000 jours sur notre page où vous pouvez déposer vos questions, demandes de précision et autres points de vue. Rubrique commentaires. Et puis promenez-vous dans nos pages Vie du Club et les livres des papous pour en savoir un peu plus sur les activités des membres de notre petite bande en dehors des papous. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Au revoir. Dans quelques instants, c'est Tire ta langue par Antoine Perrault pour passer un très bel après-midi sur France Culture. Tiens,